Chers frères et sœurs en Christ de la Réunion, je vous salue dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ, alors que je me trouve à Roodepoort, en Afrique du Sud, et je pense que vous entendez les bruits de la nature, des oiseaux autour de nous. Ces journées ont été pour moi des journées remplies, des journées d'enseignement, de discussions avec d'autres responsables d'église de par l'Afrique et d'autres personnes venant aussi des États-Unis. Avec comme question fondamentale, comment témoigner de l'amour de Christ? Comment faire des disciples? Comment être des églises à la gloire de Jésus-Christ? Et un point très important, c'est comment recevoir l'Esprit Saint, le laisser nous guider et nous transformer. Alors que ces réunions se terminent, je me trouve ce samedi juste à la fin de ces réunions et que je me prépare à vous retrouver et je me réjouis de vous retrouver. Nous allons parler ensemble, j'aimerais vous partager sur la fin du chapitre 21 de Matthieu. Sandra, la semaine précédente, a parlé sur le début du chapitre, sur l'entrée à Jérusalem, l'entrée glorieuse. Sur les marchands du temple, sur le temple où Jésus a exprimé son désaccord profond sur certaines pratiques et sur ce figuier maudit qui ne portait pas de fruits. Avant de commencer cette prédication, j'aimerais commencer par la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons maintenant. Viens guider. Viens bénir nos cœurs de ta grâce, de ton Esprit Saint. Que nous puissions apprendre de toi. Que nous puissions nous laisser transformer par toi. Que nous puissions non seulement apprendre à dire des paroles, mais à les mettre en pratique. Afin que notre amour ne soit pas théorique, mais réel. Un amour réel pour toi. Notre Dieu, notre Père, pour toi Seigneur Jésus-Christ, pour toi Esprit Saint, et un amour pour notre prochain, pour nos plus proches. Donne-nous Seigneur de voir, donne-nous d'apprendre, donne-nous de vivre ton évangile, la bonne nouvelle du salut, en toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le chapitre 21, juste après avoir eu l'histoire du figuier desséché, ce figuier qui aurait dû porter du fruit et qui n'en portait pas, les responsables juifs vont venir voir Jésus. Et au verset 23 à 27, vont lui poser une question. Et j'aimerais vous lire cette question et la réponse de Jésus dans les versets 23 à 27. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et il leur dit à son tour, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » On voit donc que quand Jésus va se rendre au temple et enseigner à nouveau, il va être confronté par ceux qui ont vu qu'il avait chassé les marchands au temple. Marchands qu'il avait chassés parce qu'ils étaient d'abord dans un lieu où les païens, les gentils, ceux qui n'étaient pas juifs mais qui croyaient en Dieu, pouvaient venir adorer Dieu. Et c'était opposé à la volonté de Dieu et le but du temple, qui était non seulement de donner un lieu pour l'adoration de Dieu pour les juifs, mais aussi pour toutes les nations du monde. Et ces juifs, ces responsables, vont venir vers Jésus et vont dire « De quelle autorité tu fais ces choses ?» Alors, c'est chasser les marchands du temple, une des choses qu'ils ont en tête. Une autre des choses qu'ils ont en tête, c'est la venue comme un roi à Jérusalem. De quel droit tu viens comme le Messie ? Et Jésus va leur répondre par une question. Il va leur demander d'où venait le baptême de Jean ? Du ciel ou des hommes ? À première vue, on pourrait dire que Jésus est en train d'éviter la question, d'éluder, de trouver une façon de ne pas répondre à cette question. Mais si nous y regardons bien, il va au cœur de la question. Son autorité vient de l'autorité de Dieu. Et son autorité est identique à celle de Jean. Elle est même plus grande. Mais il revient à Jean et il leur demande, à ses responsables, le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Jean avait appelé à la repentance. Il avait appelé les gens à se détourner de leurs péchés. La repentance, ce n'est pas seulement dire « je suis désolé », c'est dire « je comprends ». Il y a des choses que je fais qui ne sont pas justes. Je m'en détourne et j'apprends à faire autrement. Et ceux qui se détournaient, qui se repentaient vraiment, Jean les baptisait de ce baptême de repentance, un baptême de purification pour les inviter à une vie nouvelle. C'était la préparation à recevoir l'enseignement de Jésus. Pour celui qui ne se détourne pas ou celle qui ne se détourne pas des péchés, Jésus n'a pas de vie à apporter mais un jugement. Même si le but de Jésus, ce n'est pas de juger, mais de nous délivrer. De nous délivrer de nos prisons, de nos amertumes et de nos tristesses. Aussi, Jésus a une raison vraiment sérieuse de demander « D'accord, vous voulez savoir d'où vient mon autorité ? Commençons par le commencement. Jean le Baptiste, celui qui est venu juste avant moi, celui qui a annoncé ma venue, celui qui a reconnu mon autorité. » Est-ce que son baptême venait du ciel ou des hommes ? Est-ce que son autorité venait du ciel ou des hommes ? Et là, nous voyons les réflexions des responsables juifs. On peut se demander comment est-ce que nous pouvons connaître aujourd'hui ces réflexions, puisqu'ils les ont eues entre eux, sans parler à Jésus. Ce que nous pouvons dire, c'est que parmi les responsables juifs, certains sont devenus chrétiens, après la mort de Jésus ou en même temps. Par exemple, Nicodème faisait partie de ces leaders, de ces responsables juifs importants. Nicodème qui, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, va venir voir Jésus la nuit et qui, à la fin, quand Jésus sera enterré, ira avec Joseph d'Arimathée pour ensevelir le corps. Et donc, leur raisonnement est le suivant, dans les versets 25 à 27. « Si nous répondons « du ciel », il nous dira « pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Donc, si les principaux sacrificateurs, les responsables juifs disent « oui, c'est vraiment de Dieu », dire « du ciel », c'est une façon implicite de dire « ça vient de Dieu ». Dans l'évangile de Matthieu, c'est souvent utilisé parce qu'on n'utilise le nom de Dieu que de manière très modérée. On ne l'utilise pas sans cesse. Et donc, quand on dit « du ciel », c'est une façon de dire « de Dieu ». Donc, le baptême de Jean, soit il vient de Dieu, et dans ce cas-là, les responsables auraient dû se repentir, auraient dû venir à Jean, ce qu'ils n'ont pas fait. Et ils se disent, si nous répondons des hommes, ils craignent la foule, parce que la foule a reconnu Jean comme un prophète. Quand vous lisez ça, vous avez à vous poser la question, d'où vient l'autorité de ces responsables juifs ? Est-ce qu'elle vient de Dieu ou des hommes? Et par leur réflexion, vous en arrivez à la conclusion toute simple de dire « leur autorité vient des hommes ». Ils se soucient de déplaire au peuple. Donc ils ne sont pas des guides du peuple. Ils sont des personnes qui cherchent à être louées par les hommes. Ce que Jésus critiquera très sévèrement au chapitre 23. Jésus, lui, ne cherche pas à plaire aux hommes. Il cherche à plaire à Dieu et à enseigner la voie de Dieu. Mais ces personnes, ces responsables, eux, ne se préoccupent pas tellement de la vérité, de comment répondre à cette question, mais comment on va utiliser leurs paroles. Comment est-ce que leur parole va avoir un impact et sur Jésus et sur la foule? Ils ne veulent pas donner l'impression à Jésus que c'est lui qui a raison, parce que eux veulent être l'autorité suprême. Eux veulent être l'autorité à qui on se soumet, eux qui viennent de Jérusalem, alors que Jésus, lui, est un petit prophète de Galilée. Il vient de la province, il n'a aucune raison de venir dire qu'il sait mieux que les responsables juifs de Jérusalem comment il faut faire, comment il faut suivre Dieu. Donc ils ne veulent pas se soumettre à Jésus et ils ne veulent pas non plus déplaire au peuple parce que le peuple est celui sur qui ils appuient leur autorité. Et Jésus leur répondra tout simplement, après qu'ils aient dit « nous ne savons pas », alors qu'ils savent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est comment répondre sans perdre la face devant Jésus et sans déplaire au peuple. Jésus leur dira de même, à la fin du verset 27, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Donc si eux ne sont pas prêts à reconnaître, honnêtement, si Jean le Baptiste était prophète ou non, alors qu'il était un prophète, il n'y a aucune raison qu'il soit honnête pour reconnaître si Jésus est un prophète venant de Dieu non plus. Et donc, ils se sont libérés de leur répondre, puisque eux-mêmes ne reconnaissent pas les personnes qui sont venues de Dieu. Et Jésus ne va pas s'arrêter là, car son ministère est dans la continuité directe du ministère de Jean le Baptiste. La tâche de Jean le Baptiste était d'amener les gens à se détourner du péché, pour se tourner vers Dieu dans une action de repentance humble et sincère. Aussi, Jésus va donner une parabole maintenant, au verset 28 à 32. Dans les versets 28 à 30, ça sera l'histoire de deux fils, un fils qui obéit, l'autre qui ne... un fils qui dit qu'il ne va pas faire et qui fait, et un autre qui dit qu'il va faire, mais qui ne fera pas ce que son père lui demande. Ensuite, on aura la question de Jésus qui dira « Lequel fait la volonté du Père ?» Et c'est la question fondamentale que nous avons chacun de nous à nous poser. Est-ce que nous donnons l'impression, l'apparence de christianisme? Est-ce que nous faisons les choses qui donnent l'apparence qu'on appartient aux chrétiens? Ou est-ce que nous faisons ce qui nous fait des chrétiens, qui est la relation avec Jésus, une relation intime et une obéissance véritable à Dieu? J'aimerais vous lire maintenant ces versets. Verset 28. Que vous ensemble? Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous, dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Nous voyons ici l'histoire de ces deux fils. Le premier n'obéit pas au Père. Il dit non, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas aller dans la vigne. Je ne veux pas travailler. Rappelez-vous que la vigne est une image d'Israël. Une image du peuple d'Israël qui est utilisée par exemple dans l'Ancien Testament en Isaïe 5. Cette image, nous la retrouvons dans cette parabole des deux fils, et nous la retrouverons de manière encore plus forte dans la parabole des vignerons. Donc ce jeune homme ne va pas vouloir obéir à Dieu, ne va pas vouloir faire ce que Dieu veut qu'il fasse dans le peuple de Dieu. Les services, le service auquel il lui demande de répondre, qu'il demande de faire. Mais ensuite, il se repentit. Se repentir, en grec, l'original du Nouveau Testament, ça se disait « metanoeo », ça veut dire « changer de direction ». C'est dire « changer ». Se repentir, rappelez-vous toujours que ce n'est pas seulement avec la bouche qu'on se repent, c'est avec les pieds, les mains et le cœur. C'est lorsque tout notre être, on se détourne de ce qui était pas juste et qu'on fait ce qui est juste. Aussi, ce jeune homme, ce fils, lorsqu'il se repent, il va faire ce que Dieu lui a demandé. Le deuxième fils, lui, dans le verset 30, dit « Je veux bien, Seigneur. » Avez-vous observé ? Il dit « Je veux bien. » Oui, je veux le faire. « Seigneur. » Il dit que son père est Seigneur. Il lui dit, en gros, « Ton autorité est première dans ma vie, c'est toi le maître à qui j'obéis. » Mais il y a un problème. Juste après, dans le texte, nous lisons « Et il n'alla pas. » Il ne fit pas ce que son père voulait. Est-ce que ça vous est arrivé, enfant, de dire quand vos parents vous demandaient de faire quelque chose « Oui, je vais faire. » Et ensuite de ne pas faire ? Souvent, nous avons cette tentation de dire « Oui » et après de changer d'idée, de se dire « Non, finalement, j'ai pas vraiment envie de faire. » Quand nos parents nous demandaient, par exemple, est-ce que tu es prêt à faire tes devoirs ce soir pour que demain tu aies fini ? Nous disons oui, je vais faire. Et rien que dans la façon de répondre, souvent, on voit que c'est plus des paroles vides que des paroles dans lesquelles nos actions sont engagées. Ce à quoi Jésus voulait amener les responsables juifs de l'époque, c'était à prendre conscience que Jean le Baptiste avait appelé les personnes à faire la volonté de Dieu, à se détourner de leurs péchés. Et les prostituées et les publicains, c'est ceux qui ont péché, c'est ceux qui n'ont pas fait ce que Dieu voulait d'abord. Mais ensuite, quand Jean est venu, ils se sont repentis, ils se sont détournés et se sont préparés à suivre la volonté de Dieu. C'est ceux qui vont suivre Jésus ensuite. Alors que les responsables juifs, eux, ne sont pas venus au baptême de Jean. C'est ceux qui disent, nous faisons la volonté de Dieu. Mais l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain n'est pas là. Il y a tout un grand nombre de règles qu'ils suivent. Des règles sur le sabbat, des règles sur comment s'habiller, comment mettre des petites franges à leurs vêtements, signe de leur obéissance à Dieu. Mais tous ces signes, s'ils ne sont pas appuyés par des actions en cohérence avec, qui montrent leur obéissance pour Dieu, leur amour pour Dieu. Car l'obéissance que Dieu veut, c'est une obéissance d'amour. Un amour pour lui, un amour pour ce monde, un amour pour notre prochain. Un amour qui est prêt à prendre des risques, à dire la vérité. Un amour qui est prêt à déplaire au peuple, si nous avons à dire à la foule des choses qui sont désagréables, être prêt à subir les conséquences de cela. Un amour réel, un amour qui est véritable. Et Jésus, ce qu'il leur enseigne, c'est que les publicains et les prostituées seront premiers et devanceront les responsables juifs dans le royaume de Dieu. Pour les responsables, c'est très dur à entendre cela. Non seulement Jésus a déjà chassé les marchands du temple, mais ensuite, maintenant, il leur dit « Vous n'êtes pas plus grands que les prostituées et les païens » parce que eux se disaient « On est arrivés, on a déjà compris. » Il y a tout un ensemble de règles. Si on respecte ces règles, on appartient à Dieu. Nous sommes ceux qui connaissons les règles. Si vous respectez maintenant nos règles, par conséquent, vous respecterez les règles de Dieu et vous serez sauvés. Mais Jésus dit « Non, le salut n'est pas une question de règles, c'est une question d'attitude de cœur. » Est-ce qu'il y aura des règles à respecter? Bien sûr. Mais ces règles ne seront que l'expression de notre amour pour Dieu, de notre fidélité à Dieu. Et elles ne seront jamais premières. Ce qui sera premier, ce sera notre désir de plaire à Dieu, d'une relation intime avec Dieu et de servir notre prochain, d'aimer nos prochains. Jésus ne s'arrête pas là, avec ses paroles qui sont déjà dures, qui font un lien sur la question d'autorité envers Jésus, avec la question du baptême de Jean. Et là, Jésus souligne que finalement, la repentance est une étape clé pour venir à Dieu. Mais il va aller plus loin, Jésus. Il va parler de ce que les responsables juifs font, de ce que ceux qui prétendent une autorité spirituelle sans en avoir l'attitude de cœur, une attitude d'amour véritable, une attitude qui peut corriger parfois. Et ça, ça fait partie de l'autorité que Dieu veut pour ses serviteurs, mais qui est d'abord basée sur un amour pour lui et un amour pour notre prochain. Nous arrivons à cette troisième histoire, la dernière pour aujourd'hui, qui est la parabole des vignerons. Vous avez vu la première image, c'était une image avec une couronne et une question. La couronne pour représenter l'autorité. L'autorité de roi, mais l'autorité en général. Et le signe, le point d'interrogation, pour dire qui a autorité. Qui a droit de faire, d'agir, et cela représente la question sur l'autorité posée à Jésus. La deuxième image, vous voyez, il y avait deux jeunes hommes. Il y en a un qui est un peu en dessous, à gauche, qui a une tête pas très joyeuse qui fait la tête, et l'autre qui fait un grand sourire en regardant vers en haut, comme s'il était un petit peu un ange. Eh bien, c'est les deux fils. Celui de gauche, c'est celui qui fait la tête d'abord, mais qui ensuite va faire ce qu'il faut. Celui de droite, c'est celui qui donne l'impression d'être complètement obéissant, qui dit « Oui, papa, oui, mon Seigneur, je vais faire », mais qui ne fera pas. L'apparence n'est pas tout. C'est l'essence de notre obéissance, de notre foi qui est en jeu. Et maintenant, nous avons la troisième image. Vous voyez une main qui tient un couteau, et en dessous, vous voyez un pied de vigne. Le pied de vigne, ou avec la grappe de vigne, ça nous rappelle finalement que c'est la vigne dont il est fait mention dans cette histoire, la vigne de Dieu. Et la main avec le couteau, c'est ceux qui vont tuer les serviteurs, qui viennent récolter le fruit de la vigne. Et l'enseignement que Jésus va donner est le suivant. D'abord, j'aimerais vous lire les versets 33. Le verset 33. Un homme planta une vigne. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Donc ce verset nous décrit comment un homme a planté une vigne. C'était un maître. Il est parti et a quitté le pays ensuite, après avoir donné la responsabilité de faire produire son fruit à cette vigne, à des vignerons. Affermer, c'est donner en fermage. Donner pour qu'ils travaillent cette vigne et qu'elle produise du fruit. Ils ne sont pas les possesseurs de la vigne, ils sont juste des locataires, des personnes qui sont dans cette vigne parce qu'ils ont une tâche à remplir. Et dans la mesure où ils remplissent cette tâche, ils peuvent continuer à rester sur cette vigne, à bénéficier aussi des bénéfices d'être dans la vigne. Nous pouvons penser que cette image fait penser à Israël. Elle fait penser au peuple d'Israël, qui est la vigne, et les vignerons, c'est finalement ces responsables juifs qui sont amenés à guider Israël dans les voies de Dieu, pour qu'Israël porte du fruit. Et la tâche du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, c'était de témoigner de l'amour de Dieu à l'ensemble de l'humanité, à guider l'humanité dans la louange pour Dieu, dans l'adoration du Père Céleste, du Dieu trois fois saint. C'est cela pourquoi Dieu avait donné la responsabilité, donner l'autorité aux responsables juifs pour ce but-là. Maintenant, nous avons les versets 34 à 36. Serviteur battu et tué. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. La récolte, c'est que, finalement, quand nous servons Dieu, cela produit du fruit. Des fruits dans notre vie, des fruits de sainteté, des fruits dans la vie des autres, des fruits de repentance, de conversion. Parfois, on aime bien séparer dans notre vie chrétienne, se dire ce que Dieu demande de moi, c'est finalement que je vole pas, que je tue pas, que je mente pas. Oui, Dieu le demande de nous. Mais Dieu demande plus que cela. Il nous demande d'aimer notre prochain, de témoigner de l'amour de Dieu à notre prochain. Cela voudra dire qu'on va faire de notre mieux pour encourager ceux qui sont autour de nous, les aider, que l'on va témoigner de l'amour de Dieu envers eux. On utilise des termes comme évangélisation, formation de disciples. Cela est englobé dans l'amour du prochain. Si vous aimez votre prochain, vous aimez vos voisins et que vous les voyez se noyer spirituellement dans des spiritualités que, en tant que chrétien, vous savez, ne porteront pas des fruits de sainteté, ne porteront pas vers le salut, la vie éternelle. Le plus simple signe d'amour, c'est que vous allez témoigner de l'amour de Dieu et du chemin de Dieu. Est-ce que ça veut dire que les gens seront contents de l'entendre? Peut-être que oui. Peut-être que non, mais nous aurons à porter du fruit, nous aurons à amener aux autres. Et si nous ne le faisons pas, nous avons à venir à Dieu et dire « Seigneur, aie pitié de moi, aide-moi, apprends-moi comment porter ton fruit. » Et Dieu nous enseignera, nous guidera. Les serviteurs battus et tués, c'est les prophètes, c'est ceux qui ont annoncé la volonté de Dieu et... Quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on n'aime pas qu'on nous rappelle qu'on ne la fait pas. Aussi, pendant des siècles, des prophètes ont été tués. Que ce soit les prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous ont été battus, humiliés, emmenés en déportation certains. Et Jean le Baptiste lui-même sera tué, décapité. Par un roi qui se prétend juif, Hérode, qui est celui qui a fait reconstruire le temple, ce temple où Jésus est en train d'enseigner maintenant. Pardon, une petite correction, ce n'est pas le même Hérode qui a fait tuer Jean le Baptiste, c'était Hérode avant. Mais ce Hérode qui a fait tuer Jean le Baptiste est un descendant de ce premier Hérode. Et donc on voit comment non seulement quelques serviteurs ont été envoyés, mais plusieurs, beaucoup, et qu'à chaque fois on les a traités de la même manière. Les vignerons, ceux qui étaient finalement les responsables du peuple juif, ont réagi toujours de la même manière, en renvoyant, en tuant, et en n'obéissant pas, en ne donnant pas le fruit de louange, le fruit d'obéissance, le fruit d'annonce de l'amour de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous lire les versets 37 à 39. « Fils envoyé et tué. » Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Dans l'histoire, il est très clair que Jésus est ce fils qui est envoyé dans la vigne, Jésus qui est envoyé par le Père Céleste pour annoncer l'Évangile au peuple d'Israël, la bonne nouvelle, la nouvelle du salut, la nouvelle que, pour tous ceux qui se repentent du péché, ils peuvent trouver la vie éternelle. Parce que le but de Dieu n'est pas de condamner, mais de délivrer du péché. C'est pour ça que Jean le Baptiste n'est pas venu pour dire que les gens allaient mourir dans le péché, et qu'il serait condamné éternellement, mais que s'il le souhaitait, il était temps de se repentir, de se détourner du péché, pour vivre cette vie avec Dieu, cette vie sainte, qui porte du fruit pour, dans la vie éternelle. Et Jésus est venu pour faire de même, dans la suite de Jean le Baptiste, lui le Fils de Dieu, le Fils du Père Céleste. Et ce que Jésus dit va se réaliser dans les quelques jours qui suivront son enseignement ici. Il va être jugé, mis à mort, crucifié. Mais 3 jours après, il ressuscitera. Après, dans les versets 40 et 41, qui ont pour titre « Il fera périr et louera à d'autres », j'aimerais vous les lire. « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons ?» Ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ses misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Les responsables juifs sont conscients de la parabole de la vigne. Ce dont ils ne sont pas conscients, c'est que c'est eux qui ont tué des prophètes, que c'est eux qui vont faire tuer Jésus dans quelques jours. C'est eux-mêmes qui vont se réunir et qui vont demander la mort de Jésus. Dans le Sanhédrin, mais aussi devant Pilate. Jésus, lui, sait déjà ce qui va arriver. Mais les pharisiens, les responsables, les anciens, les sacrificateurs qui sont là, eux ne pensent que à d'autres. Ils ne pensent pas que c'est eux qui sont les méchants vignerons. Et donc, ils disent sans hésiter, il fera périr ces misérables. Il donnera la vigne à d'autres. À aucun moment, ils ne pensent que, finalement, ce que eux sont en train de dire, c'est ce qui va se passer. Et que le salut va s'étendre de Israël aux non-juifs, qu'on appelle les païens ou les gentils. Toutes ces personnes qui vont se tourner vers Dieu, qui vont se repentir, et qui, avec les prostituées et les collecteurs d'impôts, vont annoncer l'Évangile, vont annoncer le salut en Jésus-Christ. Maintenant, les versets 42 à 44, Jésus va confirmer la réponse que les responsables juifs viennent de donner, et il va parler de la pierre rejetée. J'aimerais vous lire ces trois versets. Verset 42. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Jésus fait mention de plusieurs textes bibliques ici. D'abord, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ce texte vient du psaume 118, les versets 22 et 23. Peut-être certains d'entre vous se rappellent que dans l'entrée à Jérusalem, les gens qui ont accueilli ont dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce psaume, parce que ces mots « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » viennent aussi du psaume 118, de ce même psaume. C'est un psaume qu'on appelle un psaume démonté pour ceux qui montent vers Jérusalem pour les fêtes. C'est pour ça que Jésus reprend ce psaume, qui est vraiment un psaume que beaucoup avaient à l'esprit alors qu'ils montaient à Jérusalem pour la Pâque. Et qu'il leur rappelle que dans ce psaume, il y a aussi ce verset sur la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Et cette pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et cette pierre qui a été rejetée deviendra la pierre d'angle. La pierre d'angle, comme les architectes savent, Colline le sait, tu le sais, je pense, et tu pourrais l'expliquer mieux que moi. La pierre d'angle, ça peut être deux choses. Ça peut être la pierre de coin qui va être la référence pour construire l'ensemble de la construction. Une autre possibilité, c'est la pierre qui se trouve en haut d'une arche, d'une voûte, qui est la pierre qui verrouille, si on veut dire, si on peut dire, l'arche. Si on l'enlève, tout tombe, tout se casse. La pierre que Jésus mentionne, finalement, c'est la pierre qui est la pierre de base sur laquelle tout l'édifice va se construire. La pierre qui est la référence sur laquelle tout va s'appuyer. C'est lui, cette pierre de référence. C'est lui, cette pierre angulaire. Et il rappelle juste après que cela vient du Seigneur, que c'est un prodige. On est toujours dans le verset 42, alors qu'il cite le psaume 118. Et c'est au verset 43 qu'il dit une parole très claire, au cas où les responsables n'aient pas bien compris. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Là, il dit clairement, vous n'avez pas compris que c'est vous les vignerons ? Eh bien, c'est vous. Et comme vous n'avez pas fait produire ce fruit d'amour, de sainteté, de vérité au peuple d'Israël, comme Dieu le voulait, lui qui vous a donné la responsabilité sur ce peuple, eh bien, il y a un autre peuple. Finalement, ça sera ce qui deviendra l'Église, qui est l'ensemble des personnes qui ont accueilli Jésus-Christ comme serviteur, comme Seigneur et Sauveur, pardon. Et au verset 44, il dit « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. » C'est probablement une référence dans Isaïe 8 qui dit que c'est une pierre, finalement, si on essaye de s'y opposer, si on essaye de la casser, c'est nous qui serons brisés. Si nous essayons de détruire Jésus-Christ, si nous essayons de nous y opposer, nous serons brisés. Parce que c'est lui le Seigneur, c'est lui la pierre d'angle, c'est lui le Fils de Dieu. Et il fait ensuite une autre référence à la fin du verset 44. « Celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Ici, on peut penser au livre de Daniel. Je crois que c'est au chapitre 2, où il y a une immense statue et il y a une pierre qui se décroche et qui va taper dans le pied de la statue et qui va faire que toute la statue va s'écrouler. Cette statue, c'était l'empire de Nabucodonosor, qui semblait si solide, mais qui en fait était bien fragile. Et Jésus-Christ est cette pierre qui va détruire les empires humains, les raisonnements humains pour amener à l'obéissance de Dieu, pour amener à la vraie connaissance, la connaissance du salut en lui. Une fois que les pharisiens ont, les responsables juifs, les anciens, les principaux sacrificateurs ont compris que c'est de eux qu'ils parlaient, ils chercheront à se saisir de lui. C'est les versets 45 et 46 que j'aimerais vous lire. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Vous voyez comment le texte a commencé avec cette question : est-ce que Jésus est prophète ou pas ? S'il est prophète, les responsables doivent se soumettre à lui. S'il n'est pas prophète, ils n'osent pas le saisir parce qu'il y a la foule qui le considère comme un prophète. Nous finissons sur cette même note, où ils vont essayer de se saisir de lui, mais ils vont essayer de le faire sans la foule, parce que la foule le reconnaît comme un prophète. Et on voit que déjà la préparation pour la mort de Jésus est en train de se faire. Et c'est ce que nous lirons dans les prochains chapitres, où les pharisiens vont essayer de coincer un peu Jésus. Tout comme Jésus leur a posé une question, est-ce que le baptême de Jean vient du ciel ou des hommes ? Et eux lui poseront des questions. Le symétrique de cette question sera quand ils vont lui demander, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ? Ils se disent, puisqu'il nous a coincés, nous aussi on va le coincer. Mais nous verrons comment Jésus, lui, va répondre. ne va pas éviter la question, mais va toucher au cœur de la question. Ce sera le sujet du chapitre 22, une des histoires. Comment Jésus va répondre, lui, aux questions qu'on lui pose. Ne va pas hésiter, ne va pas se cacher pour ne pas déplaire aux hommes ou ne pas prendre de risques. Lui, il va donner, il va enseigner, parce que Jésus n'a pas peur du peuple, n'a pas peur des responsables. Il craint Dieu, il aime Dieu, il sert Dieu, son Père céleste, qu'il aime de tout son être et dont il fait la volonté en tout temps. Alors que nous venons à la fin de ces trois histoires, nous voyons cette question de désir de plaire aux hommes, d'avoir l'air pieux ou de plaire à Dieu. Dans nos vies, nous retrouvons la même dynamique. Combien de fois nous essayons de faire ou de dire des choses qui vont être bien perçues, bien accueillies, pour qu'on soit considéré comme quelqu'un de sympathique, d'agréable. Être aimable et poli est une chose importante. Mais plaire à Dieu est encore plus important. Et je ne vous invite pas à être désagréable. Je ne vous invite pas d'abord à vous préoccuper du prochain, mais d'abord de vous préoccuper de Dieu. Est-ce que vous essayez de vivre votre vie chrétienne de manière superficielle en faisant des choses, en allant à l'église? Ce qui est une bonne chose, bien sûr, car on écoute la parole de Dieu et on essaye d'avancer dans l'amour du prochain. Est-ce que on va mettre en pratique ces enseignements de Dieu? Ou est-ce qu'on va juste se limiter à les écouter et à laisser nos vies avec les ténèbres qui s'y trouvent, sans les laisser transformer, sans laisser Dieu les transformer? Quel fils ou quelle fille vous serez? Celle qui dit oui, c'est bien, mais qui ne fait pas? Ou cet enfant qui va dire: peut-être dans le passé j'ai dit non, mais maintenant je veux dire oui. Maintenant je me repens, je me détourne des choses qui ne sont pas justes et je veux dire oui. Je ne me préoccupe pas de savoir si d'autres ont fait des choses qui n'étaient pas justes. Je me préoccupe de moi. Je me rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas justes. Et je les fais. Le problème dans la vie chrétienne de la plupart d'entre nous, c'est qu'on applique aux autres les enseignements de Jésus-Christ avant de les appliquer à nous. Un signe que vous grandissez avec Christ, c'est un signe que vous avez à changer, que vous voyez que Dieu vous montre des choses qu'il veut transformer. Si vous dites « je fais tout ce que Dieu veut et je n'ai pas à me repentir, me détourner de choses », j'aimerais vous dire probablement que vous n'êtes pas en relation avec Dieu. Probablement que votre sensibilité à Dieu a été affaiblie et que vous avez à retrouver la main de Dieu. Par exemple, cette semaine, pour ma part, j'avais un ami qui était venu me poser une question et je lui ai dit laisse-moi, je suis occupé. C'était la deuxième fois que je lui disais cela. Il m'a dit: Stéphane, je venais juste pour te poser une brève question et tu m'as renvoyé alors qu'on était avec des responsables, ce n'était pas poli. Eh bien, je suis venu le voir après, je lui ai dit: mon ami, je te demande pardon. Mon attitude n'était pas juste. Et j'ai eu à refaire encore une démarche similaire une deuxième fois cette semaine. Et vous? Est-ce que vous êtes habitué à demander pardon quand vous faites quelque chose de pas juste au Seigneur ou à votre prochain? Ou est-ce que vous cachez en disant: c'est pas grave? En disant: l'autre a fait des péchés plus grands, c'est à lui de faire quelque chose. C'est la question à laquelle j'aimerais vous laisser réfléchir. Et la semaine prochaine, quand je reviendrai, j'aimerais vous rappeler, il y a deux semaines, je vous avais exhorté à une attitude de service et de gratitude, de reconnaissance. Plusieurs d'entre vous, un bon nombre d'entre vous, avaient levé la main. Vous aviez fermé les yeux, donc vous ne savez pas qui a levé la main et qui ne l'a pas levé. Moi, je sais, non pas pour le dire, je ne le dirai à personne, et je ne le mentionnerai même pas à l'un de vous, mais je prie pour vous. Je prie pour que vous puissiez mettre en pratique cela, une attitude de serviteur, une attitude de reconnaissance. C'est à cela que je suis appelé, c'est à cela que vous êtes appelé, envers chacun d'entre nous, même les plus petits. Est-ce que vous êtes avec les responsables juifs qui faites tout ce qu'il faut à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a de la dureté de cœur, des jugements, des colères, une amertume? Ou est-ce que vous avez la paix de Dieu dans votre cœur? La paix humble d'un serviteur ou d'une servante qui avance, qui apprend à aimer, qui ne demande pas d'abord aux autres de faire, mais qui fait d'abord, qui montre l'exemple avec humilité, sachant que nous sommes bien petits, nous sommes bien misérables devant Dieu, mais que si nous essayons de tout notre cœur, Dieu le voit, et qu'avec les prostituées et les collecteurs d'impôts, ensemble, nous entrerons dans le royaume de Dieu un jour, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'amoureux de Dieu. Mon frère, ma sœur, s'il y a quelque chose dont tu as à te repentir, ne tarde pas. Ne donne plus d'excuses. Laisse-les au pied du Seigneur. Laisse-les au pied du Seigneur. Que ce soit une chose que tu as pu faire cette semaine ou quelque chose qui a pris plus de temps. Je vous invite maintenant, ceux qui sentent que Dieu vous invite à la repentance, à vous repentir et à dire à Dieu, à dire à Jésus-Christ votre désir de vraiment le suivre, de vraiment mettre en pratique, de vraiment accueillir son Esprit Saint, demander l'Esprit de Dieu. Dites à Dieu, je veux être transformé, je veux être saint. Pour ceux qui le souhaitent, je vais dire une prière et je vous invite à dire Amen après cette prière si vous sentez que vous êtes d'accord avec cette prière. Que vous êtes en accord, que cette prière est la vôtre aussi. Seigneur Jésus-Christ, tu sais combien misérable je suis. Tu sais combien j'ai besoin d'apprendre. Seigneur, je me repens de tout ce qui a pu te déplaire pendant cette semaine, ce dont je suis conscient. Je t'en demande pardon, Seigneur. Et ce dont je ne suis pas encore conscient, s'il te plaît, montre-moi, Seigneur. Et je veux m'en détourner. Seigneur Jésus-Christ, je veux être ton serviteur, je veux être ta servante. Aie pitié de moi. Je ne veux pas être avec ces pieux responsables, faussement pieux, qui se préoccupent de plaire au monde, de donner l'impression, l'apparence d'une sainteté, mais qui en ont oublié l'essence, le fondement, qui est la relation avec toi. Apprends-moi à aimer, apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à aimer mon prochain. Esprit Saint, viens dans ma vie, règne, prends tous les domaines de ma vie, transforme-les, montre-moi ce qui te déplaît. Car toi, Esprit Saint, tu veux nous montrer à la lumière de Dieu, à ta lumière, là où tu veux nous transformer, pour que nous soyons des ouvrages à ta gloire, des fruits à ta gloire, des canaux de ta grâce pour que d'autres viennent à toi aussi. Montre-moi, Seigneur, et guide-moi dans la vérité et dans l'amour. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un dimanche béni. Je vous souhaite la grâce du Seigneur, la grâce d'un cœur repentant, la grâce d'un cœur humble qui se tourne vers la lumière de Dieu. Car quelles que soient nos connaissances, quelle que soit notre situation, si nous nous tournons vers Dieu, si nous cherchons la face de Dieu avec humilité, lui se laissera trouver. Il vous bénira de sa grâce, de sa présence, de sa paix, que rien ne peut remplacer dans ce monde. Je me réjouis de vous retrouver très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.